Eh bien, merci d'être là pour ce nouveau débat. Donc, je suis Ricardo Montserrat, je représente Colère du Présent. À cette table qui n'est ni ronde ni carrée. Et donc, on va aller tout de suite au grain pour ne pas perdre de temps en courtoisie inutile. Le sujet est important et on n'aura pas assez d'une heure pour en parler. J'ai demandé à l'initiative de Leïla, à M. Siffert, donc, de Politis, de rester. Parce qu'il va faire le lien entre le débat précédent sur la presse et le débat de maintenant, la Palestine, et l'importance des histoires et de l'histoire que raconte la presse aujourd'hui par rapport, en ce qui concerne donc, le conflit israélo-palestinien. Il m'a demandé de commencer parce qu'il doit partir, il doit prendre le train. Je signale que son prochain livre, donc, qui parle de ce thème, qui s'appelle La guerre médiatique israélienne, sortira le 14, donc il n'est pas sur le salon. Et je vous passe la parole.
Je suis désolé pour ceux qui ont assisté au précédent débat. Ils vont avoir brièvement l'illusion que c'est toujours le même qui continue. Mais je vous rassure, non. Et puis je remercie Leïla et puis nos amis ici de m'avoir retenu aussi fortement par la manche. Donc finalement, je me suis laissé faire. Et puis finalement, vous me donnez une idée. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire là tout de suite. Le lien, en effet, est assez évident, puisque c'est un des sujets sur lesquels on a le plus de difficultés. Et Leïla en sait quelque chose pour intervenir et se faire entendre dans la presse et singulièrement dans la presse audiovisuelle. Il y a de véritables oukases. Je sais par exemple que sur France Culture, après une de mes interventions, Alexandre Adler avait fait savoir qu'il ne s'agissait plus que je sois une seule fois réinvité dans la matinale sur ce sujet, donc ce qui d'ailleurs a été respecté depuis. Je dois dire, courageusement par les mêmes qui m'ont téléphoné pour me le dire. Et évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et à la fois avec beaucoup de peine ce qui s'est passé sur Gaza en décembre et janvier. Et j'ai travaillé, comme nous l'avions fait déjà avec Joss Drey il y a quelques années, sur la couverture médiatique de cet événement tragique, et on a relevé un certain nombre de messages, disons, ce qui m'intéresse, c'est la façon, c'est pas tant les messages, la communication israélienne, parce que au fond, si j'ose dire, qu'un État mente, c'est d'abord, c'est pas la propriété d'Israël, et en plus, dans des situations de tension, c'est la chose la plus partagée du monde, mais comment ce message passe dans les médias, quelquefois sans filtre, sans vérification, et comment cette communication, qui n'est que de la communication, pour ne pas dire de la propagande, devient de l'information quand elle sort de la bouche de certains de nos journalistes audiovisuels. Alors, comme je ne vais pas être abusé du statut qu'on m'a donné là, très privilégié, je veux simplement dire une seule chose. Le blocus, par exemple. Avez-vous tellement entendu parler du blocus qui, depuis 2005, accable la population de Gaza, l'asphyxie, crée des conditions sanitaires, humanitaires épouvantables. Et ça, c'est totalement occulté dans la presse israélienne, dans les médias israéliens, mais totalement occulté aussi dans les grands médias français. Et ça a évidemment un effet terrible et en chaîne, c'est que si des Palestiniens envoient des roquettes sur les villes proches de Sderot ou Ashkelon ou autres, alors qu'ils sont indépendants, qu'ils ont tout le bonheur du monde, qu'on a décolonisé Gaza, etc. Alors c'est ou bien qu'ils ont vraiment le diable au corps, ou le diable à la religion, ou je ne sais pas quoi, ou le diable à l'arabité, ou encore, en tout cas, qu'ils se sont des gens très belliqueux, ou alors c'est qu'il y a des raisons. Si ces raisons sont occultées, alors on donne une image, disons, d'une violence irascible, irréductible, qui serait en quelque sorte en ce peuple. Donc cette occultation, ce silence fait sur le blocus, je le tiens, moi, pour le prolongement du déni historique qui fonde même le mouvement sioniste et qui est le déni de l'existence de ces peuples arabes qui existaient et qui vivaient sur la terre de Palestine, et qui, ce déni qui a été relayé, on le sait ensuite, par Golda Meir, qui a dit les Palestiniens, ça n'existe pas. Eh bien, de la même façon qu'on fait le mur aussi pour ne pas voir ce qui se passe derrière en Cisjordanie, eh bien, on tait complètement les conditions d'asphyxie économique, sociale et humaine à Gaza. Et donc, la violence devient inexplicable et on en fait ensuite la cause de la répression et la cause de la contre-offensive israélienne. Et voilà comment on déforme totalement la réalité. Voilà un des éléments, pas le moindre, sur lequel nous avons travaillé dans ce livre. Voilà, je vous remercie, puis je ne veux pas abuser davantage.
Merci. Donc, nous avons aussi donc, à cette table, et c'est grâce à elle que Leïla est présente cette année, hein, c'est par son intermédiaire que nous avons réussi à obtenir que Leïla soit parmi nous. Elle devait déjà venir l'an dernier, ça avait été impossible. Il y a quelques années, nous avions invité Ilana Levy, hein, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que le père d'Ilana Levy, juif polonais, s'était battu en Espagne aux côtés des brigades internationales avant d'aller se battre en Israël pour la défense de la liberté, et donc avait rejoint en tant que presque quasi ministre des Affaires étrangères le gouvernement du Fatah, le gouvernement palestinien. Nous avons donc Hélène Flautre qui est là, et je tiens à ce qu'elle prenne la parole, non pas en tant que candidate et représentante tête de liste aux européennes qui viennent, mais pour, si elle pouvait nous dire quelque chose sur l'importance du combat, du débat européen en ce moment pour faire avancer la cause du Sud et parmi toutes les causes dans le Sud, la cause palestinienne qui est la plus emblématique. Donc vous connaissez donc Hélène Flautre, nous l'apprécions ici à Arras parce que, et moi en particulier pour son combat pour les sans-papiers, pour les sans-maisons, pour les sans-logis, pour les sans-terres. Mais là, en l'occurrence, je suis très heureux qu'elle vienne vous essayer de vous convaincre de voter aux prochaines élections pour qui vous voulez, mais pour voter pour ceux qui défendront une véritable politique étrangère de l'Europe.
Merci beaucoup. Oui, donc si j'ai eu l'occasion de m'engager pour le droit du peuple palestinien et pour la paix en Palestine et pour l'existence de deux États durant tout ce mandat. C'est dans une position qui m'impliquait beaucoup comme présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Et parce que au sein du Parlement européen, c'est un peu difficile aussi, peut-être pas autant que dans les médias, mais il y a vraiment un travail qui doit être fourni de manière quasiment quotidienne pour mettre à jour les informations concernant la situation, parce qu'au Parlement européen, vous voyez, il y a des députés qui sont très branchés, même directement branchés sur l'ambassade israélienne. Il y a des députés qui sont très engagés de façon tout à fait connue pour la cause palestinienne. Et il y a un immense marais qui sait que le débat est extrêmement sensible, passionné, risqué. Et c'est vrai que les parlementaires qui s'engagent pour la Palestine, souvent rencontrent d'autres obstacles qui peuvent ressembler aux expériences que vous avez vécues. Et donc, il y a la majorité, j'allais dire, des parlementaires est plutôt dans ce marais qui se satisfait d'une résolution qui va être équilibrée. C'est-à-dire parfaitement déséquilibré, puisque la situation est totalement déséquilibrée. Mais il faut balancer, voilà. Et pour vaincre ça, nous, on a trouvé quand même avec d'autres copines, parce que c'est beaucoup des femmes, hein, je pense à Louisa, je pense à Véronique, on a trouvé une manière de travailler qui marche à tous les coups. C'est-à-dire, vous prenez un parlementaire, pas quel que soit son parti, mais presque. Et même presque, quelle que soit son opinion a priori, vous le prenez, vous le trempez 3 jours en Palestine et il ressort, mais radicalement et définitivement transformé. C'est-à-dire l'expérience de terrain. Et moi, j'ai fait ça avec le général Morillon, par exemple. En juin, nous étions allés avec le général Morillon et tu étais là, Leïla. Nous allions visiter les forces de sécurité palestiniennes puisque l'argument majeur des intrusions militaires de Tsahal, c'est l'incapacité des Palestiniens à faire respecter l'ordre et la loi sur leur territoire. Et le général Morillon a été qui est député européen, il a été totalement sidéré. Et c'est quelqu'un qui a vécu quand même sur des terrains assez chaotiques. Hein. Il en a vu dans sa vie. Et quand il est arrivé au ministère des Affaires étrangères en Israël, à Tel Aviv, il a vraiment sorti le grand jeu. Quoi. Il a dit « Jamais de ma vie, je n'ai été traité de cette manière. » Et vous mettez un parlementaire européen dans un checkpoint, des espèces de passages à bétail métalliques, tourniquets métalliques à bétail. Vous passez dans des couloirs terrifiants où des haut-parleurs vous crient des choses en hébreu que personne ne comprend. Vous attendez qu'une lumière passe au vert. C'est totalement terrifiant. Les Palestiniens qui veulent rentrer peuvent faire ça tous les jours pour leur travail, par exemple. Et le passage, il est toujours aléatoire. Ça peut durer 5 minutes, mais ça peut durer 5 heures et quelquefois plus. Et cette expérience-là vécue personnellement, elle est terrifiante, comme sont terrifiantes d'ailleurs la vision des colonies. C'est extrêmement violent de voir la beauté des villages palestiniens et ces colonies qui ressemblent à des casernes et qui sont sécurisées comme des casernes. Et vous identifiez d'ailleurs, quand vous vous promenez, vous voyez tout de suite, ça c'est une colonie, ça c'est un village palestinien, c'est immédiatement lisible et visible. Et tout ça est évidemment extrêmement violent. Gaza, c'est extrêmement violent. Alors moi, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pendant la guerre. On a réussi pendant 2 heures, pendant la trêve, avec 8 collègues de 8 pays différents. On ne savait pas très bien ce qu'on allait réussir à faire. On a réussi à casser le blocus, en quelque sorte, pendant 2 jours. Mais nous étions déjà allés avant constater ce que tu viens de dire, Denis, c'est-à-dire que le blocus, c'est-à-dire tout ce qui est absolument vital et fondamental pour la vie quotidienne, arrive de manière aléatoire, au compte-gouttes, au bon vouloir des autorités israéliennes, et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a, il y a bien eu une conférence des donateurs après la guerre. Il y avait beaucoup de pays qui se sont engagés à dépenser beaucoup d'argent, mais les matériaux de construction, à part par les tunnels, ils peuvent passer nulle part. Il n'y a rien qui passe encore aujourd'hui, ou très très peu, même pour les besoins fondamentaux des personnes. Alors nous, ce que nous avons fait avec d'autres collègues, d'autres groupes politiques, nous avons tenté toujours de mettre à l'agenda des débats au Parlement européen, la situation, pour éclairer vraiment les collègues de façon permanente là-dessus. Parce que nos moyens d'action en politique étrangère, ben c'est organiser des débats, c'est faire des délégations. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de bouquin, j'aurais pu ramener, par exemple, des rapports de missions, de délégations, des choses comme ça. Mais on n'a pas le temps. Voilà. Et donc, on fait des délégations, on fait des auditions. On a un moyen, on l'a utilisé d'ailleurs, quand il s'est agi de rehausser les relations UE-Israël, cette affaire s'est concoctée dans notre dos. Et là, je crois qu'on a bien fait notre boulot, c'est-à-dire qu'on a vraiment informé et essayé de débusquer cette négociation qui était en train de se passer entre les États membres et les autorités israéliennes, ben voilà, à la barbe de chacun. On sait que le président Sarkozy a joué un rôle néfaste et majeur, puisque le 8 décembre, quelques jours après que le Parlement européen ait dit non, et c'est là qu'il a utilisé vraiment son pouvoir, puisque dans ce rehaussement des relations, il y a un élément sur lequel on doit absolument consulter, et avec un avis conforme, c'est-à-dire le Parlement ne donne pas son avis, s'il dit non, ça ne peut pas se faire, c'est la participation accrue de l'État d'Israël aux agences et programmes communautaires. Et là-dessus, on a un vrai pouvoir qu'on a utilisé d'ailleurs. On a dit non. Ça n'a pas empêché. Le 8 décembre, c'est-à-dire quoi, 20 jours, 19 jours avant le déclenchement de l'offensive, alors que franchement, toutes les ambassades bruissaient de la préparation de cette opération militaire massive à Gaza, le Conseil a décidé de réaffirmer sa détermination à rehausser les relations UE-Israël. Aujourd'hui, Leïla va vous dire qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles sur ce sujet. Et je crois que là, le Parlement européen, une majorité du Parlement européen, mais je vais vous dire, on ne se sentait pas quand même si fort que ça au sein du Parlement européen, parce qu'on n'a pas proposé aux parlementaires européens de voter contre la participation, parce qu'on n'était pas sûr du tout de notre coup. on a beaucoup discuté sur 4 années, on a proposé de reporter le vote. Si on avait été sûr de nous, vous voyez, on aurait mis la chose au vote en ayant une majorité garantie, mais on n'était pas sûr de ça. Donc, on n'a simplement pas pris cette décision. Voilà. Et donc, on parlera sans doute après dans le débat des suites des conditions de la paix. Elles sont plus compliquées, je trouve, à imaginer aujourd'hui que jamais.
Voilà, merci. Donc, je continue le tour de table. Nous avons un invité surprise, si on peut dire, puisque devait participer à ce débat un invité de Colère du Présent qui s'appelle Hubert Haddad, hein, que beaucoup connaissent ici parce que c'est d'abord un grand poète. Hein, c'est aussi quelqu'un qui est très engagé, hein, dans le partage du savoir, hein, dans la culture populaire, puisqu'il dirige, il mène des ateliers d'écriture poétique dans toutes les banlieues. Mais c'est quelqu'un aussi qui récemment a écrit un roman qui raconte le déchirement de la double identité, puisque Hubert Haddad, comme son nom l'indique, est quelqu'un donc qui a l'identité arabe et la religion juive, et qui raconte dans ce roman, mais comme quelque chose qui est très proche de sa propre histoire, puisque un de ses proches est mort violemment, qui raconte l'histoire de deux frères dont l'un s'engage, hein, dans la cause sioniste et finit tellement il est effaré par le mensonge global, par le mensonge médiatique, par la différence qu'il y a entre ce qu'on lui avait raconté et ce qu'il vit sur le front de la guerre, qu'il finit par en mourir. Et donc, Hubert est quelqu'un de fragile, quelqu'un de déchiré, qui a beaucoup de mal à sortir, qui accepte volontiers de rencontrer les petites gens, mais qui est impressionné par les festivals. Donc, il n'est pas là. Et nous avons demandé à notre voisin, là, qui dessine en ce moment, qui ne parle qu'anglais, un tout petit peu le français, qui va donc être présenté et traduit par son éditeur. Il y a en l'occurrence, donc, un dessinateur israélien. Voilà. Et ça nous intéresse beaucoup qu'un dessinateur soit là, parce que nous savons qu'une guerre, hein, est d'abord, hein, comme l'a été la guerre, enfin depuis la guerre d'Espagne, hein, une guerre est d'abord une guerre des images. Et donc, alors, j'aimerais bien que vous parliez de cette guerre des images et que vous présentiez notre ami.
Donc, je vous présente Uri Fink. Uri Fink, c'est pas n'importe qui, c'est le dessinateur israélien le plus notoire de son pays. À 15 ans, il a sa première bande dessinée, il l'a faite à 15 ans avec un super-héros qui s'appelait Sabraman. C'était le premier super-héros israélien. Nous avons demandé à Uri Fink de raconter son expérience, comment un citoyen israélien vit le conflit au jour le jour dans son pays, sachant que Uri Fink a une longue carrière de... Oui, c'est ça, Sabraman. Uri Fink a toujours été pour le rapprochement avec les Palestiniens, pour le dialogue avec les Palestiniens. Et au fond, finalement, ce que raconte ce livre, c'est comment un citoyen israélien lambda, qui a envie de faire la paix, qui est clairement de gauche depuis des décennies, comment il se trouve embringué dans une situation qui est celle d'aujourd'hui, où en fait il s'est battu pour qu'on rende des territoires, pour que Gaza soit rendu, et en face il y a une droite et une extrême droite israélienne qui évidemment c'est ce que son dessin signifie un peu, qui évidemment a toujours dit il ne faut rien rendre aux Palestiniens, et parce que le jour où vous rendez ces territoires aux Palestiniens, ça va être un sanctuaire pour des bombardements d'Israël. Et au fond, cet argument aujourd'hui est dans la tête de tous les Israéliens, et c'est un peu pour ça que Netanyahou est de nouveau au pouvoir aujourd'hui. Et au fond, ce que dit son livre, c'est comment on peut sortir de ce truc, de ces réflexions qui sont les mêmes depuis des années, qui arrivent à des situations absolument sans issue. Et donc voilà, c'est ce que raconte le livre. Alors le livre est traduit, il se fait qu'on ne l'a pas amené, mais ça c'est l'édition hébreu que vous voyez là, mais dans la librairie qui se trouve ici, vous allez, elle est en français, elle est traduite, elle a d'ailleurs été faite pour la France, et nous en tant qu'éditeurs, on a trouvé que c'était important et intéressant de remettre un peu de complexité dans un débat, parce que vous parliez tout à l'heure de l'effet médiatique est un effet de loupe. Ils ont exactement 3 minutes dans le 20h pour parler de la situation en Israël et en Palestine. Et donc, effectivement, à la minute 2, on voit toujours des enfants qui pleurent. Et à la minute 3, il n'y a toujours pas de réflexion, de commencement même de réflexion sur cette histoire, sur cette situation politique. Alors, Uri, so I just introduce you. So if you want to express...
Well, first of all, I want to make clear that I don't represent the Israeli government and I don't approve of many of the things it does, and especially not in the last one.
Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui rigolent, donc ça veut dire qu'ils comprennent l'anglais. Donc, je vais quand même traduire pour ceux qui ne le comprennent pas. Donc, il voudrait simplement dire que tout d'abord, il n'est pas le représentant du gouvernement israélien. Et donc, il n'a aucun mandat pour représenter Israël dans ce débat.
What I thought would be interesting for the French readers is to, for once, to see really the side of the Israeli left. My generation, when I was 15 and I talked about the Palestinian state, I was nearly beaten up by people. And today, even well, the last prime minister is talking about it freely. And all my life, I've tried to fight extremism, stupidity, violence, and I'm still trying to, I'm continuing to do it.
Alors, j'espère que je ne vais pas oublier parce que je ne suis pas un traducteur professionnel. Donc, le livre raconte un peu la situation d'un citoyen israélien de gauche qui depuis 15 ans a toujours lutté contre les extrémismes, contre la stupidité, contre la violence. And then continue.
Okay. So I think that.
Lorsqu'il disait qu'il était pour un État palestinien,
oui.
Il se faisait battre.
Oui, exactement, exactement. So it was the Israeli public, the Israeli. I can talk mainly for the Israelis. You know, without their government, maybe it'll be the best way. That the Israelis have come a long way from the militaristic society that they were, that we were. I admit, or even me, that we were in the after the Six-Day War. Today, it's really, I think, the nation that just wants to live its life alongside its neighbors, assimilating the area. We are not imperialist. It's ridiculous to think so. I think. It's just one big mess that we are trapped in because of these guys. You see? The extremists on both sides.
Bon, j'espère que je vais y arriver. Donc, il explique que depuis la naissance d'Israël, c'est un pays qui a une forte tradition militariste, militaire, et que évidemment ça pèse sur le pays, et que pour des gens comme lui qui voudraient simplement vivre normalement avec leurs voisins, c'est une situation assez lourde à porter.
Vous continuez ou je continue? Okay. Très bien. Eh bien, merci. On va reprendre le débat ensuite. Donc maintenant, à côté de moi, donc il y a Leïla. Leïla, je l'ai rencontrée il y a de longues années lorsque Leïla, très courageusement, à l'initiative de Daniel Mitterrand, a fait le tour de France des banlieues sensibles, des collèges sensibles avec Gisèle Halimi, si je me souviens bien, avec d'autres personnalités pour parler avec les jeunes de ce qui se passait ici et là-bas, et quel était le problème de ce que l'on appelle une guerre civile qui n'en est pas forcément une, ou une guerre religieuse qui n'en est pas forcément une. Et j'ai retrouvé ensuite Leïla à Saint-Malo, où elle était venue accompagnée de 4 écrivains palestiniens. Il y avait donc un juif, qui était Ilan, il y avait un orthodoxe, il y avait un chrétien, il y avait un musulman, hein, il y avait donc Leïla, et pour montrer que l'histoire palestinienne n'était pas une histoire de religion, que le conflit n'était pas seulement un conflit religieux. Mais pour repartir de là, hier soir je voyais... Ah oui, non, ça va, voilà. Avant. Et lors de cette rencontre avec les écrivains, Leïla avait dit... Nous avons beaucoup parlé à nos ennemis, nous avons beaucoup négocié avec nos ennemis, enfin nos, mais nous n'avons pas assez parlé à nos amis. Et hier soir, en rentrant du salon, je voyais Amos Oz, donc, qui a 70 ans et qui a été longtemps un ami de la cause palestinienne et qui, pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, est maintenant en train de se radicaliser, d'être partisan du mur. Et à un moment, Amos Oz montrait la photo de sa maman et de son papa, qui étaient des gens brillantissimes. Le père était un grand intellectuel, la mère était une femme extraordinaire. Et la maman de Amos Oz s'est suicidée à 32 ans. Et Amos Oz posait la question, comment de tant d'intelligence et de capacité à être heureux a pu faire sortir tant de morts et de douleurs. Donc parlez à vos amis et parlez-nous de cette nécessité de convaincre aussi nos amis, pas seulement nos ennemis.
Merci Ricardo. C'est incroyable que tu dises amis, parce que je suis là pour la première fois à Arras, dans ce festival qui m'a invité à plusieurs reprises, mais où je n'ai jamais eu l'occasion de me rendre. Et au fur et à mesure qu'on a circulé avec Hélène et Ricardo dans les allées du salon, j'ai rencontré des amis. Et je trouve que ce lieu, avec ce salon, avec l'atmosphère qui y règne, est comme une grande retrouvaille familiale. Alors il y a Michel de Messine, qui est juste devant moi, que je retrouve la première fois depuis que je l'ai quitté ministre. Je retrouve Daniel Mermet dans les allées, qui est un génial journaliste qui a payé cher son courage de dire les choses comme il le pense, mais il continue à le dire. J'ai trouvé mon ange gardien, celui qui m'a pendant des années si gentiment accompagné, Frédéric, et je trouve qu'il est citoyen d'Arras. Je retrouve Denis Sieffer, journaliste et directeur de Politis, qui est là. Et je retrouve Ricardo, que j'ai connu effectivement au magnifique festival de Saint-Malo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lieu est vraiment un lieu où, autour du livre, mais j'apprends qu'en amont du festival aussi, il y a une vraie réflexion qui se veut différente. Et je pense que c'est ça, parler aux amis, c'est ça, retrouver au-delà des différences de culture. Et maintenant, je suis heureuse de me retrouver avec Uri et son nouveau illustré qui est en français, ce qui m'a permis de voir aussi ce qu'il dessine. Je trouve que nous avons besoin de lieux comme ça, où nous pouvons ensemble réfléchir, parce que je crois que nous avons réellement des choix et on a des capacités. Alors, je ne veux pas me faire le chantre d'optimisme béat, parce que ce serait stupide. Nous sommes dans une situation qui, comme l'a dit Hélène, mais même Denis avant moi et Uri aussi, nous sommes dans une situation qui est kafkaïenne. Ça veut dire que vous venez d'entendre un citoyen israélien qui est un artiste et qui vous dit que malgré toute la volonté des citoyens israéliens, ils ont l'impression qu'ils sont pris dans une tragédie, dans un carcan qui les met en opposition à une autre population et que ça dure depuis maintenant 41 ans sans résultat, et on a l'impression qu'on régresse. Parce que si on regarde les résultats des dernières élections israéliennes, elles ne sont pas rassurantes. Si on regarde les derniers exploits de l'armée israélienne à Gaza, elles sont très inquiétantes sur la capacité aussi des jeunes soldats d'obéir à des ordres qui les poussent à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait de manière naturelle. Si vous regardez chez les Palestiniens, ceux qui ont cru pendant des années à la coexistence, se demande vraiment si aujourd'hui c'est possible, s'il ne vaut pas mieux revenir à ce genre d'opposition, ça veut dire de guerre de religion. Et c'est tout sauf une guerre de religion. Ça n'a jamais été, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, les forces les plus extrémistes qui se basent sur la religion, que ce soit les colons juifs fondamentalistes et extrémistes ou les militants islamistes palestiniens, ils reviennent à la religion mais comme un outil politique. Pas du tout à la foi, mais à la religion, parce que je pense qu'il y a des échecs parmi les forces les plus laïques, que ce soit des gens comme Amos Oz, dont tu viens de parler, Ricardo, qui moi aussi quelquefois me déçoit parce que je crois que c'est un très grand écrivain. et que c'est dommage que quelqu'un qui, par ailleurs, sur le plan de la littérature, a tellement de capacité de se mettre à la place des autres, sur le plan politique, il est un peu recroquevillé sur sa propre tribu seulement et ne se met jamais à la place des Palestiniens. Et je dirais que aussi, on a l'impression qu'il y a eu une même régression chez les Palestiniens qui ont aussi quelquefois perdu foi dans la capacité de construire à deux, Israéliens et Palestiniens, peut-être quelque chose qui donne un avenir aux deux peuples. Je crois que ce conflit ne ressemble à aucun autre. Et c'est pour ça qu'il a besoin de plus que des discussions entre dirigeants politiques ou généraux. Nous, on n'a pas de généraux puisqu'on n'a pas d'armée, mais je veux dire, ce n'est pas un conflit qui trouvera une solution uniquement par le biais d'une initiative qui se fait en haut. Il a besoin d'un vrai travail aussi citoyen. C'est pour ça que le travail de dessinateur de Uri est tellement important, parce que justement, il s'adresse de par le sujet de son livre aussi aux gens. C'est les gens qui vont décider s'il va vivre ensemble ou pas. Et je crois qu'il est très important dans ce travail de construction de paix, si nous ne voulons pas ajouter sur les 41 années, 40 années de plus de guerre et de tragédie, faire intervenir les tiers. Alors les tiers, c'est très simple. Il faut que ce soit ceux qui ont, de par leur intérêt géostratégique, politique, même géographique, un intérêt à la paix dans cette région. Et donc l'Europe, qui est la seule qui a proposé un projet au niveau de la Méditerranée, je vous rappellerai que la Méditerranée est ce qui nous rapproche tous, en tout cas Israéliens, Palestiniens et au moins tous les pays riverains de la rive sud de l'Europe, c'est quand même une part très importante de ce qu'est le monde, de ce que sont les civilisations qui font le monde. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer que la guerre ou la paix puisse se faire dans cette Méditerranée sans que l'Europe ait vraiment sa part de contribution. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été très efficace sur le plan de la construction de la paix. Elle l'a été sur le plan financier et économique, puisque je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que l'Union européenne est le premier donateur des territoires palestiniens depuis plus de 20 ans, même avant Oslo, puisque l'Union européenne a commencé à établir des relations avec les Palestiniens, même avant que l'autorité palestinienne ne naisse en 1994. À partir de 1986 déjà, lorsque, rappelez-vous, Claude Cheysson était commissaire de l'Union européenne, il y avait déjà des relations entre les territoires palestiniens et l'Europe. Mais depuis Oslo, il y a réellement un plan Marshall, exactement comme celui que vous aviez eu après les deux guerres mondiales, un plan de reconstruction des territoires palestiniens avec beaucoup de générosité de la part d'un certain nombre de pays. Et le premier portefeuille est celui de l'Union européenne. Et je pense que ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est que cette générosité sur le plan financier ne se limite pas uniquement à envoyer des fonds, mais à assurer les conditions politiques qui permettent à ces fonds de créer une économie, de permettre à la population de vivre de son propre travail. Personne n'a envie aujourd'hui de transformer les Palestiniens en des personnes assistées qui feraient la quête ou l'aumône, ou à qui on distribuerait des moyens élémentaires de vie, ça veut dire nourriture et autres moyens de survie, parce que les Palestiniens sont, sur le plan de leur formation, de leur niveau d'éducation, un des pays, peut-être le plus, celui par rapport à sa taille, bien sûr, nous sommes un petit pays dans le monde arabe, nous ne faisons pas plus de 10 millions dans le monde entier, dont seulement 3,5 millions en Palestine et 1,2 million en Israël. Mais pour parler des territoires palestiniens, je dirais que le niveau d'éducation est tel qu'il y a un taux de 98% d'alphabétisme, filles et garçons, ce qui est très rare dans le monde arabe. Et tous ces gens peuvent travailler, mais pour pouvoir travailler, pour qu'ils puissent profiter de toute l'infrastructure que construit l'Union européenne, ça veut dire des emplois, des usines, des routes, un port, un aéroport, il faut que l'occupation militaire s'arrête. C'est pas très compliqué. Pendant des années, on a rabâché, et c'est là où j'aurais voulu que Denis soit là, dans la presse, on a essayé d'insinuer que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. On dit aux gens c'est compliqué pour qu'ils n'aient pas d'opinion. Comme si on ne pouvait avoir une opinion que si on était arabe ou juif. Parce que ce serait un conflit ethnique. Ce n'est pas un conflit ethnique. Ce n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit politique sur la possibilité ou l'impossibilité de ces deux peuples qui ont connu historiquement des tragédies totalement différentes de nature, de vivre côte à côte, peut-être un jour ensemble, mais au moins au début côte à côte. Et pour vivre ensemble et côte à côte, en tout cas côte à côte, et j'espère un jour ensemble, ils ont besoin d'être tous les deux libres. Ça veut dire tous les deux souverains dans leur espace, en attendant de créer peut-être un jour comme vous, un espace européen, un espace moyen-oriental, d'intégration générale. Mais la condition première, c'est de mettre fin à l'occupation militaire. Or, ce qui manque dans l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un Parlement qui réponde à la demande des citoyens, dont vous, il faut que ce Parlement puisse faire bouger les gouvernements des 27, donc le 27, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des parlementaires qui ont la volonté de faire. Tout à l'heure, Hélène vous racontait comment, lorsque tout le monde disait « on ne peut rien faire pour Gaza en pleine guerre », tu as dit que c'était le 9 janvier que vous avez été. Je me rappelle moi-même, lorsque justement ces députés, dont Hélène et beaucoup d'autres, et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient des femmes élues, italiennes, françaises, belges, m'ont dit qu'elles voulaient aller à Gaza. J'ai dit, mais vous êtes fous, comment vous allez entrer? Les bombes pleuvaient sur Gaza, vous allez vous faire bombarder. Et elles ont tenu à y aller. Et elles sont parties, elles ont été jusqu'au Caire, et du Caire, elles ont convaincu les Égyptiens de leur donner une voiture pour les amener jusqu'à Rafah. Et elles ont pu rentrer, pas longtemps, parce qu'il y avait effectivement les bombardements sur Rafah. Mais c'est vous dire que c'est une question de volonté politique. Si des élus parlementaires peuvent le faire, des ministres peuvent le faire, des responsables syndicaux peuvent le faire, mais il faut avant tout une volonté. Et ce n'est pas un conflit sans solution, ce n'est pas du tout un conflit éternel, il n'est pas voué à la tragédie, parce que je crois qu'il y a en Israël peut-être une majorité de citoyens, comme dit Uri, qui en aura le bol de vivre de guerre en guerre. En 60 ans, Israël a eu 7 guerres. Je vous promets que beaucoup de jeunes soldats n'ont plus envie d'aller à la guerre. Et chez les Palestiniens, il y a une majorité de gens qui veulent vivre à côté d'un État israélien. Mais je crois que si on nous laisse en tête à tête, nous n'y arriverons pas seuls. Comme dans tous les grands conflits, d'ailleurs, vous avez intervenu en tant que puissance européenne aussi dans d'autres conflits qui ont permis aux gens, regardons déjà les Balkans, combien, et j'espère qu'on n'aura pas besoin de l'OTAN comme on en a fait utilisation dans les Balkans. Dernière chose, je crois qu'il y a cette année en particulier une opportunité réelle parce que nous sommes débarrassés d'un homme qui a été quelqu'un qui devrait être un juge un jour jugé pour crime de guerre. Et je ne parle pas des généraux israéliens, je parle du président Bush qui a contribué à vraiment nourrir la guerre dans le monde. Et nous avons à sa place aujourd'hui un président qui, lui, a envie d'abandonner le discours militaire et de revenir, il l'a dit, ça fait 100 jours exactement qu'il est président. Je crois qu'il a envie de le faire avec les Européens. Il a envoyé beaucoup de messages aux Européens en disant « j'ai envie de travailler avec les Européens ». J'espère en tout cas que dans les semaines qui viennent, on entendra l'Europe lui répondre parce que je crois qu'il y a matière à construire quelque chose qui nous permet déjà de commencer à mettre les bases de ce qui peut être un jour les bases d'une Méditerranée qui peut apporter des ondes positives de coexistence, de vivre ensemble pour tout le monde. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire et vous féliciter pour un très beau salon.
Merci. Donc, il est d'usage, ne partez pas. Notre salon se veut avant tout un espace de débat. Donc on vient d'entendre la voix extraordinaire. On s'est promené dans la rue des Livres et les gens disaient « Ah, Leïla Chahi, c'est votre voix, hein, je vous ai reconnu à votre voix. » Leïla Chahi est une voix étonnante qui suscite une empathie, mais on aimerait bien entendre la vôtre. Hein, entendre vos inquiétudes, entendre vos doutes, entendre vos questions. Donc un micro va circuler. À la fin, je tiens à le dire tout de suite, le président, je ne sais pas, ou le responsable de l'association France-Palestine expliquera ce qui se fait ici. Mais j'aimerais bien qu'on entende la voix des, des petits, des sans grade, ceux qui font le succès de ce salon. Donc à vous la parole, et les questions sont à vous, monsieur.
Oui, merci. Je suis très heureux de vous entendre et de vous voir, parce que c'est vrai que, voilà, pour beaucoup, il y a un espoir. Quand je vous entends parler, il y a un espoir, et ça me fait très plaisir. Je voudrais une réponse technique à un problème. Vous dites que c'est difficile d'approvisionner la bande de Gaza parce qu'il faut tout passer par les checkpoints. Qu'est-ce qui nous empêche de passer par la mer ? Par la mer. Je ne comprends pas. Quoi. Et j'arrive pas à trouver de réponse à ce problème qui, moi, me paraît une évidence. C'est-à-dire, ben, si on a besoin d'aller apporter des choses, on y va par la mer. Et visiblement, est-ce que Israël empêche voilà. C'est technique, c'est tout bête, mais comme vous dites, c'est peut-être une question de volonté et est-ce vraiment une question d'impossibilité.
Vous me demandez une excellente question. Je vais répondre tout de suite parce que ce sera plus facile. Deux raisons. Premièrement, lorsqu'Israël a dit qu'elle s'est retirée de Gaza, c'était la plus grande supercherie, parce qu'elle s'est effectivement retirée de l'intérieur de la bande de Gaza. Mais l'armée israélienne tient complètement toutes les frontières terrestres, toutes les frontières aériennes, les espaces aériens, et tous les espaces maritimes. Ça veut dire que dans la dernière offensive israélienne, les bombardements venaient d'air, mais aussi des navires militaires de la mer et aussi de l'artillerie qui était aux frontières de Gaza. Donc le premier obstacle, bien sûr, c'est, vous n'imaginez pas, nous avons des petits pêcheurs qui ont des petites barques qui ramassent peut-être 200-300 kilos de poissons. Même ces petites barques, parce qu'on n'a même pas de port à Gaza, même ces barques ne peuvent pas aller pêcher la sardine. C'est vous dire qu'on n'a pas 10 mètres de profondeur dans le territoire maritime palestinien. Ça, c'est la première raison. C'est qu'il faudrait avant tout que donc les autorités israéliennes permettent l'accès des espaces maritimes de la côte. Et Gaza, ce n'est qu'une côte. Mais plus important que ça, nous avions un projet de port. Vous, Français, vous avez mis 60 millions d'euros pour un port qui devait être construit avec la participation des Pays-Bas et de la Banque d'investissement européenne. Et Sharon a bombardé le début de construction de ce port. Vous n'avez jamais entendu parler d'une sanction contre le fait qu'on avait bombardé le port. On a détruit, il y avait un aéroport, on aurait pu envoyer aussi les vivres par l'aéroport. Un aéroport que vous avez vu, vous, Européens, aussi cofinancé avec un certain nombre de pays arabes. L'armée israélienne qui prétendait qu'elle luttait contre le terrorisme, entre guillemets, elle a bombardé l'aéroport. Alors dites-moi pourquoi l'aéroport serait terroriste ? Bombarder l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas reconstruit. Et le début du port que Jacques Chirac avait inauguré a été bombardé aussi. Et donc, même s'il devait y avoir une volonté, on ne pourrait avoir que des barques qui approchent, parce qu'il n'y a pas d'eau profonde qui permette vraiment l'arrivée de bateaux. Mais tout dépend d'une décision politique. Si demain, il y avait une décision des grands de dire, parce que nous avons vu quand même que pendant le siège dont parlait Denis Sieffert, il y a eu des militants très courageux qui ont commencé par être britanniques, après qui ont pris des militants de plusieurs pays, qui ont loué des petits bateaux, presque des hors-bords, et qui sont partis de Chypre en venant sur la côte palestinienne de Gaza, en bravant les autorités israéliennes. Et ils ont fait un pari. Dans chacun de ces bateaux, il y avait une petite personnalité connue. Je pense à une en particulier qui est la belle-sœur de Tony Blair, la femme de Sherry Blair, la sœur de Sherry Blair. Et donc, ils ont chaque fois mis quelqu'un d'important en se disant, les Israéliens n'aimeront pas que dans Paris Match, on montre un bateau qui coule avec un chanteur connu, un écrivain, un député ou la belle-sœur de Tony Blair. Et ils ont réussi leur pari de montrer qu'ils pouvaient arriver. Il y a même un Israélien, deux Israéliens, il y a la journaliste Amira Haas, qui est arrivée comme ça, dans un bateau venant de Chypre. Et il y a Jeff Alfer, qui est le président de l'association contre la destruction des maisons, qui est venu. Les autorités israéliennes les ont cueillis à la frontière, les ont envoyés en prison. Ils les ont libérés un peu plus tard. C'est vous dire que c'est exactement ce que je disais sur la question de la volonté. C'est vrai que c'est difficile, mais s'il y avait volonté, comme les militants qui sont venus en bateau de Chypre, il y aurait... Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est... Faut que je dise le mot comme il est, la lâcheté des États. Il y a une telle lâcheté qu'on prétend que
il n'y a pas de solution, c'est compliqué, il faut réécrire la Bible et la Torah et le Coran pour faire la paix. C'est pas vrai. Il n'y a pas de volonté politique. Et le seul moyen pour qu'il y en ait, c'est que vous, citoyens, mettiez la pression sur vos élus en haut.
Voilà. Gardez, on va essayer d'avoir le plus de temps possible pour le débat, donc gardez les applaudissements pour la fin. Avant une autre question, je rappelle que nous avons à côté donc, le maître des images, qui est Houri, hein, colère du présent depuis 8 ans, affirme que le combat politique est important, mais que le combat pour la culture est important aussi. Donc j'aimerais qu'il y ait aussi des questions qui aillent à l'autre débatteur. Donc passez le micro.
Alain Pruvot, délégué régional de la Ligue des droits de l'homme Nord-Pas-de-Calais. Alors, d'abord, je voulais féliciter les organisateurs parce que c'était vraiment une excellente initiative que vous avez prise. Je voulais simplement rappeler ceci. Lorsque les bombardements se sont produits sur Gaza, nous avons bien entendu appelé aux manifestations en région. Ces manifestations ont d'ailleurs remporté un certain succès. J'étais présent à Lille. Il y avait, d'après la Voix du Nord, à peu près 10 000 personnes. Bon, c'est vrai que c'était spectaculaire. Le problème, c'est que c'est retombé et que dans la manifestation, moi-même, j'ai été choqué par certaines choses et je voulais savoir ce qu'en pensait Laïla Chaïd. Par exemple, lorsqu'on voyait l'étoile de David avec un signe égal et une croix gammée, ou lorsque j'ai entendu des propos disant Hitler nous a laissé les pires. Voilà ce que j'ai entendu. Bon. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'aider votre cause? Et d'autre part, aujourd'hui, maintenant que l'émotion est retombée, lorsqu'on en a discuté au comité central à Paris, Henri Leclerc, par exemple, disait qu'il fallait se méfier justement des réactions à caractère émotif. Mais maintenant que l'émotion est retombée, très concrètement, que peuvent faire des organisations comme la nôtre ou tout simplement des citoyens pour vous aider?
Avant que Laïla réponde, j'aimerais bien que mon voisin répond au début de la question, toutes ces manifestations qu'il y a eu en France au moment de la guerre à Gaza, hein, tout ce vent d'indignation où les Israéliens ont été traités dans les manifestations, et moi je l'affirme aussi, okay, de fascistes, puisqu'ils utilisaient des méthodes fascistes. Comment ça a été ressenti par
especially for this issue of the Nazis, Israelis being compared to Nazis. I am actually, my parents, they come from Germany, so obviously I have a special thing for that. But I, because I do comics, as I told you, I reacted in a comics way. I did a comics, which is based on the famous comics Mouse. You know Mouse, the famous comics by Art Spiegelman, in which it's about the Shoah, and he did the Germans as cats, the Jews as mice. So I thought, okay, what would be an Israeli? So I think the Israelis are bulls. Bulls. We are bulls.
Okay. Oui, donc, par rapport à cette question où on voit dans les manifestations les Israéliens traités de nazis, ce qui est quand même une question qu'il touche un peu directement puisqu'il est lui-même enfant de parents qui sont nés en Allemagne. Il donne une réponse qui est celle d'un auteur de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il a fait une parodie de Mouse, qui est une bande dessinée que vous devez connaître si vous ne la connaissez pas, qui est dessinée par Art Spiegelman et qui raconte Auschwitz sous la forme de bande dessinée. C'est une bande dessinée qui a eu le prix Pulitzer et qui a eu énormément de succès. Et en fait, il a fait une parodie de Mouse en se posant la question, dans Mouse donc... Les personnages sont les Allemands sont représentés sous la forme de chat et les Juifs sous la forme de souris. Il s'est dit, dans la situation israélienne, comment je peux représenter les Israéliens aujourd'hui? Et le choix qu'il a fait, c'est de les montrer comme des taureaux. C'est-à-dire un animal fou qui
so
détruit tout.
So they come and they try, you know, I don't think we have the best intentions, but we try and we ruin everything and we destroy and but when it comes down to it, and the child says that the mice asks the father, who were they? Were they Nazis? And he says, no, that's bullshit.
Oui, donc il les décrit dans cette parodie sous la forme de ces espèces de taureaux furieux qui détruisent tout sur leur passage, qui détruisent la maison, et c'est une petite famille tranquille qui voit le mur s'écrouler avec une espèce de Goldorak à tête de taureau, et l'enfant demande à ses parents: c'est qui ces gens-là? Ce sont des nazis. Et le père répond: non, c'est de la, je sais pas comment on pourrait traduire,
la
mère de taureau. Voilà.
Okay, so that's how I feel about being compared to Nazis, you know, that's so ridiculous.
Voilà, il dit que finalement, c'est comme ça qu'il pense la question, c'est qu'être comparé à des nazis, c'est finalement tout à fait ridicule.
Alors, donc, il y avait une deuxième partie à la question qui était, hein, on manifeste, hein, les manifestations ont eu du succès, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein? On a l'impression, surtout avec le gouvernement actuel, de se taper la tête contre les murs, et là, nous ne sommes pas des taureaux. Donc, que pensez-vous de...
Je voudrais quand même répondre à la question de monsieur, parce que je crois que c'est très grave d'essayer de passer sous silence le fait que le plus Israël avance dans cette politique militariste, criminelle, agressive, elle va nourrir l'antisémitisme. Parce que malheureusement, l'antisémitisme n'a pas disparu. Il est dans toutes nos sociétés, il est très présent dans la vôtre encore en Europe. Il commence à exister réellement dans le monde arabe, c'est tragique à dire, parce que pendant des années, dans le monde arabe, il n'y avait pas d'antisémitisme. Il y a eu de l'antisionisme, il y a même eu un peu de racisme anti-juif, mais l'antisémitisme historique, et la preuve c'est qu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de camp de concentration dans la plupart des pays musulmans où il y avait des grandes communautés juives, comme au Maroc, en Tunisie, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak, il n'y a pas eu, on a bien sûr donné un statut de minorité à ces communautés, comme les chrétiens d'ailleurs, mais il n'y avait pas systématiquement d'idéologie qui appelait à l'éradication des communautés juives, ni le port de l'étoile jaune, ni la dépossession, ni la spoliation des biens. C'est arrivé avec la création de l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, à cause de l'image tellement haineuse que répercute l'armée israélienne, il y a pour la première fois de l'antisémitisme dans le monde arabe. Et c'est très grave. Et moi, je pense qu'on ne peut pas jouer. Il faut être très... C'est pour ça que Ricardo disait qu'en 2002, avec Michel Warshavsky, qui est un ami israélien, et Dominique Vidal, qui est un journaliste français, nous avons tenu à aller expliquer aux jeunes qui s'en prenaient aux communautés juives de leur quartier et qui faisaient payer à ces communautés juives la politique du gouvernement israélien, nous avons tenu à aller leur expliquer qu'ils faisaient un amalgame inacceptable entre les juifs dans le monde et le gouvernement israélien. Il y avait aussi en Israël beaucoup d'Israéliens qui étaient contre l'occupation, qui quelquefois militaient plus que certains Palestiniens pour mettre fin à l'occupation. Et il fallait le faire de manière tout à fait directe et honnête, parce que ce n'est pas suffisant de condamner par des communiqués politiques. Voilà. Et donc je pense que ce que vous dites, okay, qu'on a malheureusement aussi vu, pas seulement ici, hein, on l'a vu à Bruxelles, on l'a vu à Londres, on l'a vu, ce sont ces dérapages, comment on passe d'un combat politique contre une occupation militaire, contre une offensive militaire, à un discours raciste, anti-juif, qui, à mon avis, est très grave et qu'il ne faut pas passer sous silence.
Bon, avant de te passer la parole, Hélène, Uri, vous voulez...
Okay, I just want, as an outsider looking at what's happening in Europe, it always baffles me, I don't understand it. Israel, okay, does something wrong, and then Jews are being attacked, and Israel is to blame. I mean, don't the people who attack have any responsibility? It's not automatic, you know? It's like the blame goes immediately back to Israel, which is, and on the other hand, I must say another thing.
Wait. Okay. Donc, la première chose, c'est que, en tant qu'observateur extérieur de la situation européenne, il ne comprend pas pourquoi Si Israël a des choses à se reprocher par rapport à cette situation, pourquoi on n'attaque pas Israël ? Et au contraire, on va immédiatement attaquer des juifs européens qui n'ont rien à voir avec cette situation. Et d'un autre côté ?
On the other side, I don't know. In Israel now, I don't know if you know, we have a big French immigration. We have a lot of French. You can manage now in French in Israel wonderfully, because we have a lot of French immigrants because of the anti-Semitism. And we hope that way we will have better comics and better cooking.
Oui, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, il y a en Israël une très, très forte immigration française. Beaucoup de Français viennent en Israël en ce moment. Lui, il est plutôt content parce que ça va améliorer la qualité des bandes dessinées et de la cuisine. Mais ce qu'il remarque, c'est que la plupart de ces immigrants français qui viennent, ce sont pas des gens.
They make so far the comics that were made by French immigrants is very unfortunately very religious, very very right wing. You know the adventures of Moshe and Herschel in the shtetl.
Donc, en fait, ces Français qui arrivent en Israël sont de plus en plus religieux et votent de plus en plus à l'extrême droite, à la droite et à l'extrême droite. Et donc, au fond, ils n'améliorent pas, finalement, cet antisémitisme qui est provoqué en France a un effet plutôt négatif sur la société israélienne.
Hélène, je suis désolé. Hélène, tu voulais...
Ben, je voulais remarquer, par exemple, que l'élection de Obama, parce qu'il y a aux États-Unis et en Grande-Bretagne des statistiques ethniques et religieuses, et 80% des juifs américains ont voté Obama. Et dans la soirée du 4 novembre, tout Israël priait pour la victoire de McCain. Donc on voit bien que les intérêts de l'État israélien n'ont rien à voir à peu près, ou pas forcément, enfin sont très très loin des aspirations des juifs en Europe ou aux États-Unis. Ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que moi j'ai fait pas mal de débats en rentrant de la guerre là, le 9 janvier, et toujours dans les salles, des gens veulent me faire soutenir tous les modes de résistance des Palestiniens. Et je suis toujours appelée à soutenir, par exemple, au nom de la résistance, les tirs de roquettes. Et je crois qu'il y a quand même une grille et des repères qu'il ne faut absolument pas lâcher dans cette affaire. Le droit international, les droits de l'homme. Et du point de vue du droit, eh bien, les tirs de roquettes sont évidemment des crimes de guerre. Puisque ce sont des tirs indifférenciés, indiscriminés, qui affectent la population civile. Donc il faut dire ces choses-là, tout simplement. Et d'ailleurs, je crois que il s'agit moins de... On pourrait polariser encore davantage, mais avec le phénomène déjà bien décrit, que ce sont les extrémistes des deux camps qui se renvoient la balle, et on a bien vu le jeu. Donc c'est ce cercle-là précisément qu'il s'agit de briser. Et pour briser ce cercle, il ne faut pas prendre le parti, évidemment, ni d'Israël ou de l'État palestinien. Il faut prendre le parti du droit. Ça suffit. Vous prenez le parti du droit, des droits de l'homme et du droit international et vous lisez la situation à l'aune de ces standards internationaux. Ça permet de garder une position qui n'est pas contestable et qui ne peut pas donner lieu à des dérapages, même si c'est vrai que dans des manifs, on a vu. Mais moi, j'ai surtout été contente de voir... Par exemple, dans la région parisienne, des jeunes venir en masse, descendre dans la rue, et ils n'étaient pas affublés de slogans qui nous faisaient honte, mais ils étaient là, ils manifestaient, et ces jeunes-là qu'on voit très très rarement dans la rue, qu'on n'a pas vu depuis, même pour les grandes manifs sur le droit du travail, eh bien moi je pense que ça, c'est porteur d'espoir, c'est-à-dire il y a un acte de citoyenneté là qui a fait peur. Qui a fait peur en France, qui a été rejeté de manière extrêmement violente, parfois, y compris par des forces politiques. Et ça, je crois qu'il faut savoir accueillir et travailler avec ça. C'est positif, au contraire.
Merci. Avant de passer la parole au premier ange gardien de Leïla, moi, j'avais une petite question, justement, pour quelque chose qui nous a chagriné lorsque le Fatah, donc, qui était laïc qui avait une extraordinaire expérience historique, politique de l'exil, une extraordinaire expérience de la négociation a été battue par le Hamas. On a dit que c'est un problème de relève. Qu'en est-il de la relève sur place de cette... Qui va prendre la suite, qui va prendre l'héritage du Fatah, de cette génération-là du Fatah?
Oui, premièrement, je ne pense pas du tout que c'était... il parle donc des élections de 2006. Je vous rappelle que les Palestiniens ont eu deux élections dans leur histoire, dans leur longue histoire, parce qu'on ne peut pas faire des élections s'il n'y a pas vraiment d'autorité politique. Et on peut difficilement, peut-être que c'est une illusion même de les faire sous occupation militaire. Mais je dirais qu'on a eu la première en 1996. Je vous signale qu'en 1996, la plupart des partis qui ont eu des candidats étaient des partis laïcs, puisque le Hamas avait boycotté les élections. La deuxième élection, c'était en 2006. Et là, le Hamas a changé d'avis et il a accepté de participer aux élections. Et il a gagné la majeure partie des sièges. Personnellement, mon analyse sur la défaite du Fatah en 2006 est une réponse qui est un vote de sanction. C'est un vote de sanction des citoyens qui exprimaient leur désapprobation de la manière dont le Fatah avait géré, premièrement, les négociations avec Israël, l'échec de ce qu'ils avaient promis, ça veut dire Oslo, qui aurait dû, en 1999 déjà, montrer les prémices d'un État palestinien. Rappelez-vous que dans les accords d'Oslo, en 1999, on était supposé avoir déjà proclamé un État, on ne l'a toujours pas. Troisièmement, la corruption, le système de politique mis en place par le Fatah, qui n'est pas de la corruption évidente comme les pots de vin, mais je dirais un système de clientélisme politique, d'autocratie, où on met en place et on distribue l'autorité et le pouvoir dans un système vraiment de clientélisme politique. Et donc, je pense qu'il y avait là, de la part de la société palestinienne, un message très clair qui a fait que quelquefois, vous avez eu des villes comme chrétiennes, comme Bethléem, qui ont voté pour les candidats du Hamas, ce qui était assez surprenant. Je crois que c'était un vote de sanction, un vote de sanction qui a d'ailleurs quelque part minimisé ce que ça veut dire de voter pour un parti dont l'idéologie politique est très religieuse. Je pense qu'aujourd'hui, on mettra de l'eau dans son vin dans les votes de sanction. Je crois que ce sont des expériences de pays comme les nôtres. Je pense qu'en Algérie, lorsque les gens ont voté pour le fils, c'était aussi un vote de sanction contre le FLN algérien. Je crois que quelquefois, la société, des sociétés où il n'y a pas beaucoup de pluralisme politique, l'élection est un moyen d'expression politique, parce que comme il n'y a pas assez de débats démocratiques, c'est par le vote que les citoyens s'expriment, avec ou contre un pouvoir. Alors, La question que tu poses, elle reste très légitime. Ça veut dire qu'il faut à tout prix que nous sortions de la dichotomie Hamas-Fatah. Ça veut dire comme s'il n'y avait que deux choix dans une société. C'est pour ça que je pense que les écolos sont tellement importants. Et souvent, je dis qu'il faudrait qu'on ait des écolos dans le monde arabe. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de partis qui donnent une panoplie de choix idéologiques aux citoyens, parce que premièrement, ça rend l'expérience politique, idéologique du débat citoyen plus riche. On ne peut pas être ou en noir et blanc, ou d'un côté ou de l'autre. Je crois que c'est très important pour qu'il y ait une relève et pour que les jeunes... tout à l'heure, Hélène disait un truc important. Vous avez un défi qui est celui d'intégrer les populations d'origine immigrée, les nouvelles générations. On ne peut pas continuer à les appeler issus de l'immigration, parce qu'ils sont issus depuis 60 ans. Bon, il faut aussi qu'ils s'intègrent, mais nous avons aussi la nécessité de faire participer nos jeunes qui ne se retrouvent ni dans le Fatah ni dans le Hamas. Il faut qu'ils créent leur propre relève, comme tu dis. Mais est-ce qu'on peut la faire vraiment sous occupation militaire? Ça, c'est la grande question. Parce que les jeunes, ils disent... Moi, j'ai un dessinateur qui plairait beaucoup à Ouri, génial, qui raconte un jeune homme de 27 ans, génial, qui a fait un très beau dessin animé, et il se bagarre. Il dit, toi, tu es avec qui? Toi, tu es avec le Hamas? Non. Toi, tu es avec le Fatah? Non. Toi, tu es avec qui? Il dit, moi, je suis avec l'avion qui m'amènera ailleurs. Et c'est très triste que le jeune dise que lui, il est
avec le départ, avec l'exil, avec la fuite, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'il y a comme establishment politique dans son pays.
Oui, mais c'est sous l'occupation allemande que les forces de la résistance se sont réunies et ont imaginé les jours heureux, le programme qui a été appliqué après la libération. Donc l'ange gardien, dont je ne sais pas le nom, il ne s'appelle pas Gabriel, Frédéric.
Ouais, je voulais simplement dire quelque chose sur le Hamas, qu'on ne dit pas assez, parce que les roquettes, c'est la conséquence d'une politique qui a été menée aussi par l'État d'Israël. Il faut bien savoir que le Hamas a été financé et armé par Israël pour tuer Arafat et désorganiser l'OLP au départ. On ne le dit pas assez. C'est quand même quelque chose qui est réel. D'autre part, avec la pauvreté, avec les camps, évidemment, on donne la part aux religieux. L'OLP, qui a toujours été laïque, le gouvernement palestinien, qui est laïque, n'a jamais été favorisé. Et même quand il y a eu les accords, Israël a tout fait pour retarder les avancées et gêner le gouvernement, même s'il y a eu des choses avec le Fatah, certainement au niveau de l'économie et de l'organisation et des dépenses à l'intérieur de l'État d'Israël. Vous avez dit Obama, effectivement, 80% du lobby juif aux États-Unis a voté Obama. Je sais que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une certaine époque, il y avait eu une suspension de l'argent qui avait été envoyé à l'État d'Israël, et les États-Unis et les Juifs dans le monde entier se réunissaient en congrès pour envoyer de l'argent à l'État d'Israël. Ça marchait très très bien aux États-Unis. Le lobby juif est quand même très important à côté d'Obama, il faut le savoir. Je ne sais pas si ça sera vraiment une chance. Voilà.
Une autre question peut-être dans la salle. Ce sera la dernière avant que je laisse la parole à monsieur, puis ensuite à nos invités.
Avant de poser ma question, je voudrais revenir un peu sur le problème d'antisémitisme dont il a été parlé tout à l'heure. Inversement à ce qui était dit, on a beaucoup de mal à critiquer l'État d'Israël, la politique d'Israël ou l'armée israélienne sans se faire taxer d'antisémitisme aussi. On a beaucoup de... Il faut être toujours très prudent dans la façon dont on présente les choses parce qu'on est très facilement traité d'antisémitisme. Alors ma question, tout à l'heure, vous avez parlé de la passivité des États européens, et qu'est-ce qui peut, on peut même dire complicité dans certains cas avec la politique d'Israël. On a vu Bernard Kouchner faire la bise à Tzipi Livni sur le perron de l'Elysée, etc. Ce sont des scènes qui sont
indécentes,
un petit peu indécentes. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette passivité vis-à-vis d'Israël, de l'ensemble des États, que personne ne proteste vraiment, que personne, aucun État ne dise avec fermeté « mais ça ne va pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas ». Tout ce que a dit Hélène Flautre, bon, tout le monde le sait, c'est ces gens-là qui nous dirigent, le savent évidemment.
Je vais te poser la question à toi. Avant que vous ne répondiez...
Est-ce que vous avez une idée de...
Non, mais avant que vous ne répondiez, est-ce qu'on peut critiquer Israël? Est-ce qu'on peut critiquer Israël sans être traité d'antisémite? Il y a une époque où les intellectuels israéliens, pro-israéliens comme Anna Arendt, comme Albert Einstein, critiquaient férocement ce qui se passait en Israël. Comme le prix Nobel Isaac Bashevis Singer disait « Attention, ce qui se passe en Israël n'est pas bon signe ». Est-ce qu'on peut encore critiquer? Is it possible?
Criticize here? I don't criticize. Israel is a national sport, you know. It's in Israel.
Oui, il dit que critiquer Israël est un sport national en Israël.
No, I think even on a more serious note.
D'une façon plus sérieuse.
Israel finances artistic projects that are so anti-Israeli. That you'd think, it was ordered by by such anti-Semitic organizations like the European Union. Just kidding, kidding.
Oui, okay. Donc il dit que c'est même incroyable de voir qu'Israël finance des artistes et finance des auteurs qui sont tellement critiques par rapport à Israël qu'on a l'impression qu'ils ont été produits par la partie la plus antisémite de l'Europe, ce qui est évidemment une plaisanterie.
Merci.
Uri, I would like you to speak about the nose, the noses.
The nose. The only problem we have in Israel, we are indeed a bit sensitive about cartoons, because we had a bad experience with cartoons in World War II with the Stürmer, yes.
Je vais traduire. Donc, oui, il y a une très très grande sensibilité à la caricature en Israël, en particulier parce que le Stürmer, qui est le fameux journal de la propagande nazie d'avant-guerre, a souvent décrit les Juifs d'une façon avec un grand nez crochu. Oui.
So when I draw a religious Jew, especially when I draw, I have to draw them. They are part of the stories.
Quand il dessine des juifs religieux, il a à le faire puisque de temps en temps il doit montrer.
They always have a nose like Didier here.
Ils ont toujours un nez comme le mien, c'est-à-dire like un nez suédois.
Yes, exactly, Swedish nose, and that is very sensitive. But in Israel, really, people sometimes are surprised that it is completely free. I never got. I got sometimes when I did things. Because I usually work for young people. I do comics for young people. So when sometimes I put my politics in there, I get, people get angry at me. But usually I did terrible things like...
Oui, donc je profite qu'il cherche son truc pour dire que oui, il n'a pas tellement l'occasion de dessiner des choses très sensibles parce que l'essentiel de son travail, c'est pour les enfants. Et donc de temps en temps, il met quand même... quelques petites touches politiques, et là il va montrer un exemple de ce qu'il a fait.
But usually I publish these things against the settlers in the
voilà, et souvent il publie ce type de comic book qui sont contre les colons en Israël.
When they were fighting against being evacuated from their homes.
Oui, quand ils luttaient contre l'évacuation de leur maison qui était en territoires occupés.
And nothing happened, and I'm a bit disappointed.
Oui, donc et en fait, chaque fois qu'il a critiqué ses colons, il n'y a jamais rien qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'y a jamais reproché, et finalement, ça, c'est un peu décevant pour lui. C'est une sorte d'échec.
Mais c'est parce que les colons ne savent pas lire, c'est ça?
Non, elle lit beaucoup de BD. Les colons, oui, les colons aiment bien. Elle aime
BD?
Beaucoup les colons, oui, les BD, oui. J'ai une amie qui fait les BD, les colons, et très bien. Ok.
Oui, moi je voudrais ajouter à ce que dit Uri que c'est vrai que la critique, l'autocritique sociale, culturelle, religieuse et même politique en Israël est beaucoup plus forte et d'une certaine manière beaucoup plus courageuse qu'en Europe. Et l'évidence, c'est bien sûr le rapport à l'antisémitisme européen. Ça veut dire que les Israéliens ne sont pas culpabilisés. Ils n'ont rien à se reprocher, donc ils n'ont pas peur d'être accusés d'antisémitisme. Je ferai une exception, Uri, que Hélène m'a rappelé. C'est qu'en période de guerre, il y a comme un frein automatique. Ça veut dire qu'on l'a en particulier remarqué pendant l'offensive sur Gaza. Moi qui lis de très près... la critique israélienne, parce que je trouve, elle est d'ailleurs, vous serez surpris, Yasser Arafat, le premier journal qu'il lisait tous les matins était le Haaretz. Et à l'époque, il n'y avait même pas la version...
Moi aussi.
Toi aussi, oui. Moi aussi, mais je veux dire, Yasser Arafat, c'est quand même... Moi, ça m'impressionnait que Yasser Arafat, la première chose qu'il lisait, à l'époque, il n'y avait pas de version anglaise, donc il fallait qu'il lise la traduction de l'hébreu en arabe, mais il exigeait que lorsqu'il arrivait le matin, sur la table, il y avait déjà... les articles majeurs traduits de l'hébreu en arabe. Parce que nous sommes impressionnés par le fait qu'effectivement, il y a une critique. Mais cette critique, comme par hasard, il y a comme un accord non écrit qu'en période de guerre, c'est l'union nationale et on critique moins. Et c'était très, très évident pendant l'offensive sur Gaza. Mais c'est vrai que ce qui se publie en livre, en article de presse, en commentaire, d'ailleurs, la presse est plus intéressante que la Knesset. Et chez les artistes en particulier. Mais pour répondre à monsieur, parce que je pense que vous
posé une très bonne question. Pourquoi c'est comme ça? Pour avoir fréquenté depuis maintenant 40 ans les Européens qui essayent de s'occuper de la question israélo-palestinienne, je dirais qu'il y a deux raisons majeures pour cette lâcheté dont je parle. Vous serez surpris. Après quand même quelques années d'expérience en Europe, je crois que la première raison n'est pas la culpabilité à l'égard du génocide. À l'égard de celle-là, je la comprends. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si il n'y a pas eu d'antisémitisme, comme s'il n'y avait pas eu de génocide, comme s'il n'y avait pas eu de nazisme, comme s'il n'y a pas des relents qu'on continue à sentir. On ne peut pas faire comme si ça n'a pas existé. Mais après expérience, je crois que la première raison de la lâcheté, en particulier des autorités politiques, c'est l'alignement sur les Américains. C'est que, avant que les États membres de l'Union européenne se permettent d'avoir une position, tous regardent au-delà de l'Atlantique pour savoir si c'est en conformité avec ce que les maîtres du monde demandent. Et lorsque vous les défiez en leur disant « Mais pourquoi vous avez tellement besoin d'approbation de l'administration américaine ?» Ils me disent « Mais vous oubliez que c'est grâce à eux que nous, on a été sauvés. Qui nous a permis de battre le nazisme ?» Donc, le sentiment atlantiste en Europe et dans les gouvernements, en particulier ceux de droite, très présent. Très, très présent. C'est pour ça que je considère que le changement d'administration en Amérique aura un impact très important. D'ailleurs, on commence à le voir. Hélène vous a dit que pour la première fois, certains pays membres de l'Union européenne, pas seulement le Parlement qui avait refusé le rehaussement des relations avec Israël, mais même certains États membres, comme le Portugal, comme la Belgique, comme le Luxembourg, comme l'Irlande, comme Chypre, commence à dire qu'on ne peut pas relever les relations avec Israël avant qu'Israël ne respecte le processus de paix et les droits des Palestiniens. Et donc, je pense que la première raison, c'est ça, c'est l'alignement sur les positions américaines. Et deuxièmement, bien sûr, le sentiment de culpabilité. Ça veut dire que, comme malheureusement toute prise de position sur cette question est considérée comme pro-palestinienne ou pro-israélienne, on ne dit jamais... On n'est ni pro-palestinien ni pro-israélien, on est pro-droit, comme Hélène a dit, on est pré-justice, on est comme... Parce que vous connaissez au monde quelqu'un qui est avec l'occupation militaire de n'importe quel peuple? Non. Mais sur cette question-là, on vous dit, vous êtes pro-palestinien ou pro-israélien? Et si vous dites, je ne suis pro-rien du tout, je suis pro-droit, on ne vous croit pas. On vous dit, il cache quelque chose. Mais c'est ça la vérité, c'est qu'on est pro-la justice pour tout le monde. Et je crois que cette deuxième question, qui est la peur d'être taxé de pro-palestinien et puis un peu plus après de pro-israël, d'anti-israélien et un peu plus gravement d'antisémite, et quelque chose qui a détruit des vies. Je vous parlais de Daniel Mermet qui a retrouvé des survivants du génocide qui étaient abandonnés, qui vivaient à trois fois rien à Tel Aviv, qui les a mis dans ses programmes, qui a interviewé autant d'Israéliens que de Palestiniens dans toutes les émissions qu'il avait. Mais bien sûr, il avait interviewé José Bové lorsque Bové, en 2002, a eu le courage d'aller jusqu'à Ramallah. Il s'est fait traiter par Alain Finkielkraut d'antisémite. Et il a eu un procès qu'on lui a fait. Et on l'a traîné en justice pour antisémitisme. Il a gagné son procès. Mais entre le moment où Alain Finkielkraut et ses camarades lui ont fait, dont Alexandre Adler, dont parlait Denis Sieffert, et qui a interdit qu'on l'invite à lui, Denis, à France Culture, il y avait Alexandre Adler, et Alain Finkielkraut et je pense Bernard-Henri Lévy qui ont accusé Daniel Mermet d'antisémitisme parce qu'il avait osé toucher au sujet tabou en disant que c'est un sujet qui n'est ni israélien ni palestinien mais qu'il était international et qu'il était avant tout un problème de justice. Et donc bon, ça c'est la deuxième raison qui fait. Mais j'ai le sentiment que c'est pour ça que c'est important d'entendre les Israéliens, parce que lorsqu'on entend et qu'on traduit ce que les Israéliens osent dire sur eux-mêmes, on libère quelquefois aussi la parole en Europe.
Le temps nous est compté. Donc, Colère du présent existe parce que de nombreuses associations en font partie, appuient le salon, font partie intégrante des associations culturelles, des associations politiques, des associations de défense des droits de l'homme, et parmi elles, qui est là depuis toujours, depuis le premier salon. Donc il y a la FPL, l'Association France-Palestine, dont le représentant est là. Et je lui donne la parole, mais brièvement, hein, hélas. Venez, monsieur, ou je ne sais pas où est le micro. Ben, le micro arrive. Voilà, et donc dont le stand est juste en sortant.
Oui, je vais dire quelques mots, en sachant que notre association France-Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais est une association très pluraliste. Léla Chaïd faisait allusion aux Verts. Bah oui, il y a des Verts à la FPS, mais il y a aussi des communistes, des socialistes. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique. Et puis, il y a surtout des personnes qui ne sont rien du tout, qui veulent lutter pour le soutien au peuple palestinien. Simplement, ce que je voulais dire, c'est après avoir entendu Léla Chaïd, c'est qu'effectivement, on a besoin de travail citoyen chez nous pour soutenir la Palestine. Je crois que c'est notre grande affaire en tant qu'association, mais pas tout seul, en travaillant avec d'autres, en ayant des partenaires, en étant capable aussi de la mobilisation citoyenne. On a parlé des manifestations de janvier, décembre-janvier. Après le permis de tuer qui a été donné par l'Europe, effectivement, et notamment par Sarkozy, à partir du 8 décembre, il faut bien réfléchir qu'effectivement, il y a eu des manifestations importantes dans notre pays, alors même que d'ailleurs certains s'interrogeaient sur la capacité d'une mobilisation en France. Eh bien oui, on a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Français, de citoyens qui sont descendus dans la rue, crier leur colère contre Israël, mais qui l'ont crié. J'ai été en contact avec les autorités, aussi bien policières que les autorités préfectorales pour l'organisation des manifestations. À ma connaissance, à Lille, il n'y a pas eu de problème particulier, et ce n'est pas simplement dû à l'efficacité de notre service d'ordre. C'est dû notamment parce que c'était une mobilisation citoyenne. Il va pas falloir bien y réfléchir, d'ailleurs, à cette question, au fait que ce qui a été organisé en commun, mais nous n'étions pas tout seuls, il y avait le CBSP, il y avait l'Union des Juifs pour la paix, il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait, je ne vais pas tous les citer, cette façon dont les choses ont été organisées ont fait que ce sont des organisations également citoyennes qui ont mené cette mobilisation. Et ce qui nous intéresse, nous, actuellement, puisqu'on est le 1er mai, nous avons un stand, moi, ce qui me frappe, c'est que cette mobilisation n'a pas disparu. Elle existe encore. Et nous avons été très sollicités pour la préparation de ce 1er mai, à Arras, bien entendu, mais également dans d'autres villes dans la région. Deuxième élément, nous menons un combat tout particulier dans trois directions. Un, il s'agit effectivement de briser le blocus de Gaza. Donc une partie de notre mobilisation, nos réunions, notre acte, etc., vont être sur cette base-là. Briser le blocus de Gaza, et nous avons l'intention de mener une opération en liaison avec nos amis du comité de bienfaisance et de secours pour la Palestine. Deuxième élément, la campagne pour la libération immédiate de Salah Hamouri. Vous reverrez peut-être tout à l'heure sur notre stand, mais il s'agit d'un jeune franco-palestinien qui est tout à fait innocent. Ce n'est pas le fait que résister, il peut y avoir d'autres formes de résistance, mais lui, il n'a rien fait. Il a été arrêté sur de simples présomptions de culpabilité et il est emprisonné, il en a pris pour 7 ans, il vient juste d'avoir 24 ans. Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire qu'il y ait une mobilisation dans notre pays, dans notre région, pour la libération immédiate de ce jeune homme, d'autant plus qu'il est français. Il est un peu le symbole de ces 11 000 prisonniers palestiniens. Le troisième axe, c'est ce que nous bâtissons actuellement, qu'est le boycott, désinvestissement, sanctions contre Israël, parce qu'il n'est pas possible que cet État qui ne respecte pas le droit international ait la possibilité de continuer. Donc nous menons une campagne qui prend différentes formes, y compris, par exemple, nous nous interrogeons sur ce qu'il convient de faire et comment mener le combat pour que la France, qui est le deuxième fournisseur d'armes d'Israël, pour que la France cesse de livrer des armes à Israël. Nous venons d'apprendre que, par exemple, les Britanniques ont cessé de le faire. Voilà les axes Merci. De notre combat. Nous avons un certain nombre de rendez-vous. Combat, bien entendu, mais aussi réflexion, puisque nous avons toute une réflexion sur la façon dont s'est produit l'expulsion des Palestiniens depuis 1947-48 et même avant. Donc nous allons travailler sur ces questions-là en réfléchissant et en travaillant, y compris avec
voilà.
les chercheurs.
Je vous remercie. Merci. Le débat pourra se poursuivre avec l'association à la porte. Je remarque que Daniel Mermet est là-haut et je le remercie. Donc vous pouvez télécharger très facilement. Vous pouvez télécharger très facilement sur France Inter des émissions récentes de Daniel Mermet, notamment celle qui s'appelait « Vaincre Hitler », où un intellectuel israélien parlait de ce qui se passe en Israël. Un tout petit mot de la fin ? Non ? Pas de mot de la fin ? Eh bien, le débat se poursuit à l'extérieur. Merci de votre patience. Merci, Leïla.